RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. Après avoir parlé de l'état des paroisses en France, notamment en milieu rural, on va voir jusqu'à 11h comment on peut les dynamiser, comment on peut les booster, toujours avec vos témoignages, vos réactions. Venez nous parler de vos paroisses. Comment redonner de la vitalité aux paroisses? Qu'est-ce qui se fait de bien dans votre paroisse qui pourrait se décliner ailleurs? Vous avez la parole dès maintenant au 04 72 38 20 23. Je rappelle le numéro, c'est Mélissa qui répond à vos appels au standard. 04 72 38 20 23. Vous laissez également vos messages par mail à l'adresse direct@rcf.fr et vous rejoignez le groupe Facebook Je pense donc j'agis, là aussi pour apporter vos témoignages.
Jusqu'à 11h, Je pense donc j'agis sur RCF.
Je pense donc j'agis avec nos chroniqueurs qui chaque jour viennent prendre la parole pour nous parler d'engagement et de moyens d'agir. Alors que les catholiques sont entrés dans la période qu'on appelle l'Avent, c'est-à-dire 4 semaines avant Noël, Pascal Gréboval du magazine Kaizen nous parlera d'une proposition à faire peut-être pendant l'Avent, une proposition de changement possible à mettre en place dès la fin de ces 4 semaines. Ce sera à 10h20. Et puis, quelles belles initiatives ont été créées autour du handicap. C'est la mission de Juliette Moyer de nous les présenter chaque lundi. On la retrouvera en direct à 10h50. Rebonjour Vincent de Cruchanel.
Oui, bonjour Melchior.
Je rappelle que vous êtes diacre au service de la paroisse de Levallois. Vous êtes co-auteur d'un livre qu'on a présenté dans la première partie de cette émission avec Véronique Alzieux, intitulé EZ37, guide pour rebooster nos paroisses, publié chez Salvator. Bonjour Jean-François Arnoux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct de nos studios qui se trouvent à Dijon. Vous êtes prêtre diocésain, vous êtes l'ancien curé de Louhans et du Chalonnais. Une conviction pour vous, Jean-François Arnoux, il faut totalement repenser les paroisses.
Absolument.
Oui, pourquoi cette conviction? C'est votre expérience en paroisse qui vous a donné envie de vous engager aussi pour le renouveau des paroisses?
Bien sûr, oui, une conviction. Alors, effectivement, je suis en retraite maintenant, mais ça ne veut pas dire que je suis complètement en retrait.
Oui.
Je pense que les anciens, j'ai 50 ans de sacerdoce, ils ont une expérience, ils ont des choses à dire. Il ne suffit pas de leur dire, ben maintenant, tu es en retraite, tais-toi et prie. Je pense que la transmission, c'est aussi le travail de ceux, comme les grands-pères et les grands-mères, qui ont des tas de choses à transmettre à leurs enfants et à leurs petits-enfants. C'est un trésor. Ça ne veut pas dire qu'on a la vérité, mais ça veut dire qu'on a des choses à dire, à partager, à donner, à offrir. Bon, je pense que c'est aussi un trésor à garder, étudier.
Oui. Quand vous dites qu'il faut repenser, par exemple, le modèle paroissial, ça passe par quoi?
Alors, à mon avis, la chose essentielle, c'est de vivre la fraternité. Mieux vivre la fraternité. Vous savez, on peut passer 50 ans de sa vie à aller à la messe tous les dimanches, à connaître le visage de ceux qui sont à côté de nous, sans connaître leur nom, sans connaître leur joie, sans connaître leur peine, sans connaître leurs soucis. Je suis pas sûr que ça soit bien catholique, si vous permettez.
Vincent de Cruchanel, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans la première partie de cette émission de la fraternité.
On n'en a pas beaucoup parlé, un tout petit peu quand on a évoqué la question des 5 essentiels. Mais d'abord, je voudrais dire toute mon admiration pour ce prêtre dont j'ai pas retenu le nom de Dijon.
Jean-François Arnoux.
Jean-François. Et donc, moi, c'est avec beaucoup moins d'expérience et donc beaucoup moins peut-être d'autorité que je vais parler. Mais je voudrais d'abord dire que c'est tout à fait, je consonne tout à fait à la question de la fraternité, l'importance de l'accueil, de la vie fraternelle, de se connaître, de connaître nos pauvretés aussi, de connaître nos intentions de prière, de notre vie. Mais moi, je voudrais revenir sur ce que disait le pape François quand il était encore évêque et qu'il présidait la conférence des évêques latino-américains en 2007 à Parisida, lors de cette rencontre, cette conférence magnifique, et dans laquelle il disait, face, je dirais, un peu à la déshérence de l'Église, au fait que beaucoup de catholiques, je dirais, partaient et aller rejoindre notamment les églises évangéliques. Ils disaient, mais qu'est-ce qui manque dans notre église pour que les gens aillent ailleurs ou bien quittent tout simplement la foi chrétienne? Et ils disaient, mais il y a quatre axes dans lesquels nous sommes conviés par l'Esprit Saint de vivre et de renforcer. Le premier, c'est l'axe de l'expérience religieuse et de la rencontre. On l'a beaucoup développé de cette première partie, la rencontre, parce que nous sommes des personnes baptisées qui avons à vivre et à faire vivre la rencontre. Parce qu'on n'est pas uniquement un club, mais on a à faire vivre la rencontre avec le Christ. Et la deuxième chose, c'est la fraternité. Parce que nous, les chrétiens ont besoin d'être accueillis fraternellement, de se sentir valorisés, de se sentir besoin d'être responsabilisés, d'être utile dans un service de la paroisse. Et puis troisièmement, les chrétiens ont besoin d'être formés, formés à l'écoute de la parole de Dieu pour pouvoir eux-mêmes rendre compte de leur foi et finalement d'inviter les chrétiens à un engagement missionnaire. Et moi, je crois que c'est quand nous serons des communautés en bonne santé, c'est-à-dire qui vivons ces cinq essentiels de la prière, de la fraternité, de l'écoute de la parole de Dieu, la formation, de se mettre au service concrètement et d'avoir un engagement missionnaire. C'est quand ces communautés-là vivront en bonne santé, eh bien, qu'elles deviendront attirantes. C'est-à-dire qu'elles pourront effectivement bien accueillir et donner envie de pousser la porte de l'Église.
Jean-François Arnoux, vous êtes d'accord avec les propos de Vincent de Cruchanel ?
Oui, je suis d'accord, mais le problème, c'est de savoir comment, dans l'état actuel des choses, mettre en place la fraternité. Vous savez, le pape François, quand il est arrivé à Rome, il a écrit une conviction en disant que, pour lui, il était évident que la chose la plus importante que l'Église avait à vivre pour l'instant, c'était de soigner les blessures. Soigner les blessures. Les gens blessés, Dieu sait s'il y en a. Eh bien, si on ne s'attaque pas à ce problème-là, de façon concrète, réelle, ben, on est une spiritualité désincarnée qui n'intéresse personne. Je pense que quand on sent qu'on a de l'intérêt pour les autres, quand on sent que les autres sont le corps du Christ. Vous savez, je crois que parfois on a surévalué le corps eucharistique du Christ par rapport à son corps mystique. Et Saint Jean Chrysostome le rappelle très bien lorsqu'il dit quand tu veux honorer le corps du Christ, ne l'honore pas avec des étoffes de soie. Quand il souffre du froid et de la nudité au dehors. Quelle utilité à ce que la table du Christ soit chargée de coupes d'or quand il meurt de faim. Rassasie d'abord l'affamé et orne ensuite sa table. Tu veux voir ton autel ? Cet autel est constitué par les propres membres du Christ. Et le corps du Seigneur devient pour toi un autel. Vénère-le. Cet autel-là, partout où il t'est possible de le contempler, dans les rues, sur les places et à toute heure, tu peux y célébrer ta liturgie. Il va loin, Jean Chrysostome. Oui. Et je pense que on est loin de ça.
Alors, on va voir justement comment s'y approcher peut-être jusqu'à 11h avec vous deux, Vincent Cruchanel et Jean-François Arnoux. On va prendre le temps d'écouter nos auditrices, auditeurs. Pascal, vous êtes à Angers. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez au 04 72 38 20 23 et on vous écoute. Vous avez
bonjour.
Peut-être une solution miracle, Pascal, pour dynamiser les paroisses.
Non, je voulais vraiment témoigner d'un très beau parcours qui a été construit par le diocèse et les mouvements d'Angers,
oui.
Qui s'appelle Parcours au Saint-Esprit. En fait, c'est un parcours sur 8 soirées qui permet, à travers l'accueil, la louange, des témoignages, des enseignements, de petit à petit emmener des personnes de la paroisse vers la rencontre du Seigneur à travers une journée, souvent c'est un dimanche, une journée où ils vont être invités à vivre le baptême dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire à redécouvrir, à vivre une expérience personnelle de la rencontre avec Jésus. Et ce parcours est organisé, enfin est construit, est déjà clé en main en fait. Il y a déjà tout est balisé, mais en fait il y a toute une équipe de la paroisse qui se l'approprie et ensemble ils vont emmené d'autres frères de la paroisse à vitaliser leur foi. Et par exemple, nous, dans notre coin, il y a une paroisse, donc la paroisse d'Avrier, la paroisse donc qui Deville et une paroisse rurale à Générosie.
Oui.
Ils ont donc des réalités très très différentes sur le plan du territoire, sur le plan des personnes, avec leurs pauvres moyens. C'est une amie qui a préparé qui était dedans, qui m'a dit, mais avec nos pauvres moyens, nous avons vu l'œuvre de l'Esprit-Saint agir. Et avec ces deux paroisses se sont retrouvées dimanche dernier pour vivre ensemble, donc des réalités différentes, cette plongée dans le baptême dans l'Esprit-Saint. Et à partir de là, je pense que quand les personnes mettent Jésus en premier dans leur vie, là, en effet, on peut accueillir l'autre blessé. On peut être une église accueillante en vérité. C'est à partir de là, dans cette rencontre personnelle, que justement notre église deviendra quelque chose de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus libre et de beaucoup plus fraternel. Parce que je suis d'accord avec le prêtre qui est intervenu avant. Nous sommes beaucoup trop dans des mondanités aujourd'hui, dans nos relations. Ça, c'est quelque chose, moi, qui me fait souffrir. Je n'en veux plus.
Oui.
Le monde le sent. Ils n'arrivent pas à être accessibles avec nous parce que notre cœur est pris par autre chose.
Merci.
Voilà.
Merci beaucoup, Pascal, d'être venu à l'antenne pour apporter ce témoignage au 04 72 38 20 23. Vincent Cruchanel, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur l'importance de la rencontre, avec notamment ces nombreuses propositions qui existent en France, dans certaines paroisses, pour rassembler même des paroisses, comme le parcours au Saint-Esprit, pointé du doigt par Pascal, ou même les parcours Alpha qu'on connaît aussi, Vincent.
Absolument. D'ailleurs, le parcours du Saint-Esprit... Vit ou fait vivre d'une autre manière ce que l'on vit au parcours Alpha, à savoir le week-end sur le Saint-Esprit, dans lequel, par exemple, nous, à la paroisse de Levallois, hier, il y avait le week-end sur le Saint-Esprit, et 13 personnes ont pu faire la démarche de demander le baptême dans l'Esprit-Saint, 13 autres personnes ont pu vivre ce premier pas vers Jésus, c'est-à-dire ce première mise en disponibilité, ce désir de se rapprocher du Christ. C'est tout à fait passionnant. Et puisqu'on parle du parcours Alpha, moi, ce qui me frappe, je peux dire que dans le livre, Jean-Hubert Thieffry, qui est le prêtre qui aussi avec qui on a écrit ce livre, est celui qui a introduit le parcours Alpha en France. Moi j'ai introduit le parcours Alpha justement dans le diocèse d'Angers. On peut dire que le parcours Alpha repose sur à la fois la fraternité, l'accueil, le repas, la bienveillance les uns avec les autres, la formation, puisqu'il y a 25 minutes, un petit peu de topo. Il y a aussi la construction les personnes qui se mettent au service. Et puis tout ça, le but, c'est de permettre de faire faire la rencontre du Christ.
Oui.
Donc on est bien dans cette... Mais je voudrais dire aussi une autre chose, c'est que puisqu'on parle des paroisses rurales et aussi des paroisses citadines,
oui,
on ne peut pas... Il n'y a pas de recette. On peut dire, voilà, la fraternité, c'est concret et c'est hyper concret, ça passe par l'accueil, etc. Mais ça sera à chaque paroisse de voir comment concrètement susciter des fraternités locales, améliorer l'accueil, améliorer l'écoute. Et on ne peut pas donner de recettes. On peut dire, attention, c'est important, mais moi, je ne crois pas qu'on puisse, on puisse dire, il faut faire ceci et faire cela.
Par contre, il y a une vraie différence entre le milieu rural et le milieu urbain. Jean-François Arnoux, j'aimerais aussi qu'on parle de ça. Mettre en place un parcours Alpha ou parcours de Saint-Esprit en ville, c'est peut-être plus simple pour regrouper des paroisses. En zone rurale, c'est peut-être plus compliqué, Jean-François. Vous avez...
Écoutez, oui, moi, j'ai vécu personnellement le parcours Alpha quand j'étais curé de Louan.
Oui.
Louan, c'est une petite ville de, je sais pas, 6-7 000 habitants.
Oui.
Et je peux vous dire que je l'ai fait avec une église évangélique.
Ah oui, c'est intéressant ça aussi. Ouais.
Avec une église évangélique. Et ça s'est très, très bien passé. Effectivement, dans les églises évangéliques, on vit, je trouve, une fraternité qui se sent mieux, qui se vit mieux que dans l'Église catholique. Ça fait partie de toutes les rencontres, de tous les rassemblements, à un degré qu'on trouve beaucoup moins dans l'Église. Alors, ça a été pour moi une expérience formidable, puis une expérience un peu écuménique aussi. Quand on commence par s'aimer, par vivre ensemble, et qu'on ne commence pas par les différences théologiques ou d'interprétation biblique, quand on vit d'abord la fraternité, ça va tout de suite mieux. Et après, on peut avoir des discussions sur un certain nombre de problèmes ou sur un certain nombre de pratiques qui nous différencient. Mais l'essentiel est là, c'est la fraternité vécue, le partage vécu. Et c'est vrai, vous parlez des repas qu'il y a au cours des réunions alpha. Je pense qu'on s'est un petit peu désincarné dans l'Église catholique. On ne mange pas assez ensemble. Quand on regarde dans l'Évangile le nombre de fois où Jésus mange avec des gens et des apôtres et où il se passe des choses au cours d'un repas... Quand j'étais gamin, qu'on me disait que la messe c'était un repas, je trouvais ça un petit peu maigrichon, vous comprenez, hein, comme repas. Oui. Où on ne se parle pas, où l'hostie, bon, c'est le repas qu'on mange, mais c'est un petit peu limité, je veux dire. Normalement, la messe, ça devrait commencer par le lavement des pieds. Jésus a commencé par le lavement des pieds. Et le fait de ceci en mémoire de moi, il s'applique au lavement des pieds. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez les uns les autres comme j'ai fait pour vous. Quand il n'y a pas la fraternité, on peut bien faire tout le baratin qu'on veut, il ne se passe rien. Vous savez, Éloi Leclerc, il a écrit un joli petit bouquin qui s'appelle « Sagesse d'un pauvre ». Et à la fin de ce livre, il dit « Qu'est-ce qu'évangéliser ?» Eh bien, évangéliser un homme... C'est lui dire, toi aussi, tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. Et pas seulement de lui dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, mais se comporter avec cet homme de telle manière qu'il sente et découvre qu'il y a en lui quelque chose de sauvé, quelque chose de plus grand, de plus noble que ce qu'il pensait, et qu'il s'éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi. C'est ça, lui annoncer la bonne nouvelle. Vous savez, je trouve que dans nos réflexions, ça tourne beaucoup trop souvent autour du culte. Alors, je ne suis pas contre le culte, mais c'est déjà pour des gens qui ont une certaine pratique. Quand Jésus nous dit comment il faut se comporter les uns et les autres, il parle du bon samaritain, qui est le bon païen du coin, mais qui a le comportement de fraternité réelle. Et c'est là que ça se joue. Hein. Le jugement dernier, c'est « j'ai eu faim, est-ce que tu m'as donné à manger ?» Il me semble que si on commence pas par là, on peut avoir, allez, je vais dire des gros mots, mais un culte idolâtrique du vrai Dieu. Parce que les prophètes, depuis le début, ils se sont insurgés sur une façon d'adorer Dieu qui était incompatible avec le comportement social des gens.
Oui.
Ça doit aller de pair avec l'attention à l'autre au quotidien. Et s'il n'y a pas ça, ben, l'adoration, elle ne vaut rien. Voilà. D'ailleurs, Jésus, quand il parle de l'adoration, il parle de l'adoration en esprit et vérité. De ça, j'en entends pas beaucoup parler. Bon, on parle de l'adoration eucharistique, je ne vais pas dire que c'est mauvais, mais il y a quelque chose qui me paraît ambigu là-dedans. Je m'explique. Bien sûr que ça crée des merveilles et que je ne vais pas critiquer cette pratique. Il n'empêche que c'est quelqu'un qui va dans le tabernacle chercher une hostie, qui la met dans un ostensoir et qui décide qu'on doit adorer de telle heure à telle heure. Quand on chosifie Dieu, alors je ne dis pas qu'on chosifie l'Eucharistie, mais il y a quelque chose quand même qui il y a une attention à avoir pour qu'il y ait une véritable cohérence entre cette adoration de l'hostie et l'adoration, la pratique du frère au quotidien, c'est très très important. Il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. Elles vont ensemble.
Jean-François Arnoux, j'aimerais que Vincent de Cruchanel réponde peut-être à ce que vous venez de dire ou complète peut-être, Vincent.
Oui, alors je voudrais dire des choses par rapport à la fraternité. C'est, je pense que la fraternité doit se vivre à tous les niveaux de la paroisse. Ce que je veux dire par là, c'est d'abord qu'on puisse organiser, et nous on essaie de le vivre et de le promouvoir, la paroisse comme rassemblement de fraternité, que toute personne qui fréquente plus ou moins la paroisse est un lieu de fraternité, que ce soit un lieu de préparation au mariage, préparation au baptême, que ce soit un lieu de partage, voilà, des fraternités de différentes manières, de couples, etc. Mais la fraternité, ça doit se vivre aussi au sein de chaque service. Je veux dire par là, par exemple, que les catéchistes, ils sont nombreux, c'est vrai sur le Valois, mais il y a toujours des équipes de catéchistes ou des équipes de préparation au mariage, de préparation au baptême, vivent la fraternité ensemble. C'est-à-dire que on ne peut pas faire quelque chose en église sans vivre la fraternité. Et la fraternité, ça veut dire le partage, ça veut dire la bienveillance, ça veut dire être en vérité, ça veut dire prier ensemble, demander la prière, etc. Bon, je n'ai pas développé pour l'instant comment on nourrit la fraternité. Ouais. Mais ça veut dire aussi que la fraternité entre différents responsables de service soit vécue. C'est-à-dire qu'on n'est pas des services en silo, c'est-à-dire on est indépendants les uns des autres, mais qu'ils puissent y avoir, alors peut-être au sein de conseils pastoraux, etc., qui puissent vraiment se vivre la fraternité pour qu'on soit attentifs les uns aux autres. Et puis, nous, en EAP, en équipe d'animation paroissiale ou pastorale, eh bien, quand on a conduit la transformation de la paroisse de Levallois, la première chose qu'on a essayé de faire, c'est de vivre la fraternité entre nous. Alors, on prenait d'abord un café croissant, et puis ensuite, on se donnait la nouvelle où est-ce qu'on en était les uns les autres, ce qu'on portait au niveau de peut-être une difficulté familiale, un parent qui était malade, bref, la vie professionnelle qui était difficile. On se partageait, et on prenait comme ça une heure de café croissant et de partager la nouvelle. Ensuite, on prenait 10 minutes de louange. Et après, on abordait les questions de la vie paroissiale ou de la vision, etc. Donc, voilà. Et l'accueil. Et puis, moi, j'insiste aussi sur la fraternité au niveau de l'ensemble de la paroisse. C'est-à-dire que quand on sort, par exemple, de l'église, on soit attentif à être fraternel avec celui qu'on ne connaît pas, qu'on n'aille pas tout de suite vers celui qu'on connaît. Donc, la fraternité, ça se vit à différents niveaux.
Vincent Cruchanel, je rappelle que vous êtes diacre au service de la paroisse de Levallois. Vous êtes avec nous ce matin, notamment parce que vous êtes le co-auteur d'un livre intitulé EZ37, guide pour rebooster nos paroisses, paru chez Salvatore. Jean-François Arnoux, vous êtes prêtre diocésain, ancien curé de Louan et du Chalonnais. Vous continuez de nous joindre au 04 72 38 20 23 pour nous dire comment rebooster vos paroisses. Si vous avez des bonnes idées à nous transmettre et puis peut-être des expériences à nous raconter, venez nous parler de vos paroisses, tout simplement. 04 72 38 20 23. Vous laissez vos mails à l'adresse direct@rcf.fr et vous rejoignez le groupe Facebook Je pense, donc j'agis.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et nous allons retrouver notre chroniqueur du lundi, Pascal Grébeauval, bonjour.
Bonjour Melchior, bonjour à tous.
Vous êtes rédacteur en chef au magazine Keizen. On me dit que vous avez envie d'écrire au Père Noël ce matin.
Oui, Melchior, car depuis hier, dimanche 28 novembre, nous sommes rentrés dans ce que les catholiques appellent la période de l'Avent, c'est-à-dire 4 semaines avant Noël, donc il est temps d'écrire. Mais c'est aussi une période propice à la réflexion sur les changements possibles dans nos vies. Et j'ai envie de faire une proposition de changement possible à mettre en place dès la fin de ces 4 semaines. Que la célébration de Noël ne résume plus à l'amoncellement de cadeaux au pied du sapin. Depuis des années, la gabegie consumériste a préempté cette fête religieuse, prouvant une nouvelle fois la capacité du capitalisme à s'approprier tous les concepts, le comble étant le Black Friday, le vendredi qui précède justement le début de l'Avent.
Alors peut-être, mais Noël c'est aussi une fête pour les enfants, Pascal, qui attendent des cadeaux.
Vous avez raison Melchior, ils attendent les cadeaux, mais si les parents ou les grands-parents aiment leurs enfants, ce dont je suis très convaincu, la meilleure chose qu'ils aient à faire, c'est de ne pas acheter d'objets. Je vais rappeler quelques chiffres. Pour Noël, 65% des jouets vendus sont importés de Chine. ces jouets sont composés à 90% de matières plastiques et synthétiques. Dit autrement, c'est du pétrole. 75 000 tonnes de jouets sont jetées à la poubelle chaque année en France. 20 000 tonnes de papier cadeau sont utilisées à Noël en France, l'équivalent de 380 000 arbres coupés. Et enfin, 5 millions de sapins cultivés à grand renfort d'engrais sont coupés en France pour Noël. Bref, une overdose de chiffres qui nous rappelle comment Noël, entre autres, participe au dérèglement climatique. Donc, si vous aimez vos enfants, vos petits-enfants, et si vous souhaitez qu'ils vivent avec les conditions climatiques que vous avez connues quand vous étiez vous-même enfant, c'est-à-dire un climat à peu près tempéré, trouvez d'autres moyens de célébrer Noël.
Bon, vous avez des pistes, j'imagine ?
Oui, comme disaient vos intervenants précédents, la fraternité. Donc, ça commence par réduire l'emballage. Pour remplacer le papier cadeau qui dure 10 secondes avant de finir à la poubelle, utilisez une technique japonaise de pliage réalisée avec un carré de tissu qui peut être un foulard, un bout d'oreiller, un torchon, un vêtement recyclé. Ça s'appelle le furoshiki. Pour les cadeaux, c'est facile, pensez immatériel. À la place d'objets, on peut ainsi déposer au pied du sapin de Noël un bon pour un cours de piano, une séance de yoga, un cours de cuisine, que l'on peut même dispenser soi-même. Ça, c'est le top. Autre idée dématérialisée, on peut aussi offrir une place pour un concert, un abonnement dans une salle de cinéma d'art et d'essai, une pièce de théâtre ou encore une exposition. Autre piste, une promenade à cheval, une nuit insolite comme dans une cabane perchée sur les branches ou encore un abonnement à la piscine. Pour les jeunes parents, vous pouvez offrir un week-end de babysitting pour justement les laisser souffler, se ressourcer, ou à l'inverse, pour les papis et les mamies, offrir une assistance informatique. Bref, pour résumer, pendant ce temps de l'Avent, prenons le temps de trouver des cadeaux qui favorisent du temps partagé avec les proches, la famille, les amis. Ce type de cadeau n'émet aucun gaz à effet de serre, pourtant il remplit les cœurs de chaleur toute l'année.
Et merci beaucoup Pascal Gribeauval, on peut même offrir un abonnement à un magazine, Kaizen par exemple, dont vous êtes le rédacteur en chef. Et on parle d'ailleurs de l'enjeu du sapin de Noël dans le magazine à retrouver en kiosque de novembre-décembre avec une infographie qui vous explique l'impact écologique de ce sapin. C'est tout un programme, merci beaucoup Pascal Gribeauval. Vincent de Cruchanel, ce serait quoi votre cadeau idéal pour Noël?
À donner ou à recevoir?
Ah bah comme vous voulez, vous choisissez.
Eh bien, moi, je pense que à donner, c'est une très bonne idée. On le fait aussi. Enfin, c'est une idée. C'est de pouvoir aller garder les petits-enfants pour que les parents puissent partir un week-end en amoureux. C'est le cadeau qu'on aimerait faire à tous nos enfants.
Ben, c'est une bonne idée. Nicole nous appelle de Colmar au 04 72 38 20 23. Bonjour, Nicole.
Bonjour.
Bonjour, on vous écoute.
Alors, moi, je voudrais simplement partager cette fraternité dont vous avez parlé, où je suis tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre. Notre Église, elle changera le jour où on sera beaucoup plus humain, qu'il y ait plus d'entraide, plus d'écoute, de partage. Alors, le curé de ma paroisse, donc de Saint-Martin, m'a proposé de faire un spectacle, puisque je fais du théâtre d'enfants, de faire un spectacle et de le présenter les 4 samedis du temps de l'Avent dans sa paroisse, et enfin dans ma paroisse. Et c'est ce que nous avons commencé à faire samedi dernier. Et ce qui est très chaleureux et que j'ai beaucoup apprécié, c'est que parmi ces enfants, j'ai toutes les confessions. Et toutes les confessions ou non-confessions se sont retrouvées, évidemment, dans cette collégiale pour voir ce spectacle qui, en plus, est offert pour des enfants malades. Mmh. Et c'est cette unité, cette fraternité, cette chaleur qui, à mon avis, est extrêmement importante. Mmh. Et je l'ai ressenti au moment du plan Sauvé, quand notre évêque de Strasbourg avait écrit un livre merveilleux, Une oreille qui écoute. Et je pense que c'est ça, au départ. Une oreille qui écoute. Il faut qu'on s'écoute les uns les autres et qu'on sache partager.
Merci beaucoup Nicole pour ce témoignage dont Je pense donc j'agis. Jean-François Arnoux, une réaction ?
Ah, je suis à 200% pour ce que vient de dire cette dame.
Je m'en doutais.
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Je vais rajouter un truc par rapport aux paroisses. Je crois que il faudrait aussi que les paroisses ne reste pas simplement paroisse à côté du monde, mais qu'elle travaille aussi avec les autres, avec des associations non confessionnelles, etc., etc. Je vous donne un exemple que j'ai vécu quand j'étais curé à Chalon-sur-Saône, à Saint-Côme. Saint-Côme et Damien, deux médecins du IVe siècle. il y avait le comité de quartier qui fêtait Saint-Côme dans le dimanche le plus près du 26 septembre, qui est la fête de Saint-Côme. Et ça se passait sur la place de l'église, avec moult pétards, fanfares et tout le bazar, si bien que la messe de 10 heures était passablement perturbée pendant ce moment de fête, tout au moins pendant la messe. Je suis allé trouver le président du comité de quartier, oui, qui n'était pas un chrétien, avec qui on s'est très bien entendu, et on a décidé de faire ensemble la fête de Saint-Côme, qui, chez les chrétiens, à cette époque-là, du coin, ne se faisait pas du tout à ce moment-là. Donc on l'a fait autour du 26 septembre, ensemble. On a intégré la messe au programme de la journée, si bien que, j'ai eu des célébrations qui n'étaient plus perturbées du tout, puisque ceux qui voulaient y venir, y venaient. Apéritif commun à la sortie de l'église pour les chrétiens et pour les autres. Et ça s'est très bien passé, au point que, plusieurs fois par an, nous avons décidé de faire ensemble des repas, comité de quartier laïque, paroisse, préparé par le comité de quartier et par la paroisse, et tenez-vous bien, réalisé à l'école publique qui se trouvait à côté de l'église. Eh bien, ça a mis une sacrée ambiance dans le quartier.
Voilà, de bonnes idées. On en entend ce matin avec vous deux, Jean-François Arnoux, Vincent de Cruchanel. Je vous lis un message de Jean-Luc, de Solange, qu'elle nous a laissé par mail à l'adresse direct@rcf.fr, qui fait écho d'ailleurs à ce qu'a dit il y a quelques instants Nicole, qui est venue à l'antenne depuis Colmar. Sauver les paroisses, oui, mais tous les jours, nous entendons des pères spirituels censés représenter le Christ mal agir. Il faut d'abord s'occuper de nos prêtres. Forcément, Jean-François Arnoux, ce qui est en train de se passer dans l'Église, on a parlé du rapport sauvé tout à l'heure, ça fait du mal aussi aux paroisses.
Bien sûr. C'est un vaste problème qui concerne le pouvoir, des clercs. On parle de la gouvernance de l'Église en pensant y introduire des femmes. J'en suis convaincu, mais permets de dire ça. Oui. C'est peut-être un peu. Enfin, j'espère ne scandaliser personne.
Mais c'est votre avis, c'est votre parole.
Oui. Je suis pas sûr que tant que les femmes n'auront pas accès au sacerdoce, je pense pas qu'il y ait quelque chose qui change au niveau du pouvoir clérical.
Écoutez, c'est un autre sujet, mais ça reste important.
C'est un autre sujet, oui. Mais au niveau de la gouvernance, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des choses qui changent au niveau des structures de l'Église. Et il faut que les clercs, ils arrêtent de croire que parce qu'ils ont le sacerdoce, ils sont supérieurs aux autres et qu'ils décident de tout. Parce que, vous savez, il y a du boulot à faire de ce côté-là, parce que même avec les équipes d'animation pastorale, ça peut être un leurre. Ça peut être simplement un rassemblement de laïcs qui va dire amen à ce qu'a dit monsieur le curé. J'en connais des équipes qui fonctionnent comme ça. Alors, donc il y a une représentativité de façade, mais qui n'a aucun pouvoir concret, réel. Le curé fait ce qu'il veut, comme des évêques font ce qu'ils veulent aussi. Vous savez, j'ai quand même un peu perdu la foi dans la capacité d'écoute de pas mal d'évêques. Et je trouve que c'est très compliqué parce qu'ils sont attachés à leur pouvoir, ils veulent tout contrôler. Dans le journal La Croix, il y a quelques jours, il y a eu un courrier des lecteurs qui faisait la comparaison avec le synode de l'Église réformée. Et il disait ceci: chez les réformés, tout le monde s'exprime. A priori, pas de sujet tabou. Tout peut être sur la table et même voté. Dans le monde catholique, tout part de la hiérarchie cléricale qui est toujours là. Et les sujets sont bien conformistes et il n'y a que des sujets autorisés. Bon, voilà.
C'est
on
tout
ne
un
discutera
programme,
pas de façon concrète, ouais, sur la gouvernance de l'Église, sur la gouvernance des paroisses, sur les ministères cléricaux, sur l'accès des divorcés mariés au sacrement et leur accueil réel, etc. Donc, il y a du boulot à faire. Et cette dame parlait de l'écoute tout à l'heure. Vraiment, vraiment, c'est quelque chose de premier. Et c'est ce qui commence les 10 commandements, écoute Israël. Et bien le problème de l'écoute, il est valable pour tout le monde, à tous les niveaux de la hiérarchie, à tous les niveaux de nos relations humaines. Il faut d'abord écouter. Écouter, c'est pas faire semblant d'écouter, c'est laisser pénétrer la parole de l'autre jusqu'au point où elle peut nous amener à changer.
On parlera de la gouvernance des paroisses dans quelques instants, dont je pense donc que j'agis. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23 pour réagir et pour apporter vos témoignages. À tout de suite.
Visage, proposé par Thierry Lyonnais.
Daniel Duigou a été journaliste à la télévision française, psychanalyste et ordonné prêtre il y a une vingtaine d'années. Il est aujourd'hui retiré au désert, dans le sud du Maroc. Lors d'un court passage en France, je lui ai demandé quel regard il portait sur la crise que traverse l'Église catholique suite au rapport Sauvé et comment vivre de l'Évangile aujourd'hui. Une parole libre à écouter dans Visage ce lundi à 21h.
Pour organiser votre emploi du temps, la boutique RCF vous présente l'agenda RCF 2022. Conçu par RCF et Covadis, il organisera vos rendez-vous de décembre à décembre avec une double page par semaine. Il contient le calendrier des principales fêtes chrétiennes, le saint du jour, la liste des fréquences RCF et une carte du monde pour 10,50 euros seulement. Pour plus de renseignements et commander votre agenda RCF 2022, appelez le service auditeur au 04 72 38 62 10. Prix hors livraison.
Allez, 10h36 sur RCF, on marque une petite pause. Vous nous appelez au 04 72 38 20 23. Vous laissez vos messages dans le groupe Facebook, je pense. Donc j'agis, on vous attend toutes et tous à l'antenne, juste après cette chanson de Grégory Turpin. Et dans un instant, on revient sur les paroisses.
Quand on regarde ailleurs, on se trompe souvent de chemin. Rythmé par nos erreurs, son cœur, tout ça pour rien changer de vie avant qu'elle ne change. Écoutez les anges, changer de vie, partir au désert, chercher la vraie lumière, changer de vie dès aujourd'hui, prendre Dieu comme ce qu'on croyait sans trop savoir, ouvrir ses mains et ouvrir ses bras. L'amour c'est savoir recevoir, prendre un nouveau départ, renoncer à ce qu'on a, choisir une autre histoire.
Changer de vie, c'était Grégory Turpin sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et ce matin, on essaye de dynamiser, de rebooster nos paroisses avec nos deux invités qui nous accompagnent jusqu'à 11h. Vincent de Cruy-Chanel, je rappelle que vous êtes diacre au service de la paroisse de Levallois. Vous êtes le co-auteur d'un livre intitulé EZ37, guide pour rebooster nos paroisses, publié chez Salvator. Jean-François Arnoux, vous êtes prêtre diocésain et ancien curé de Louhan et du Chalonnais. Je vous lis un message de Jean-Luc, il vient nous laisser dans le groupe Facebook. Je pense donc que j'agis. Est-ce que le manque de prêtres n'est pas une chance des paroisses pour que des laïcs prennent pleinement leur place dans les paroisses au sens d'engagement sur la durée et non pas simplement ponctuel et au sens de la responsabilité? Je suis heureux d'entendre que le curé ne peut pas être curé tout seul. J'irai plus loin. Pourquoi ne pas envisager que la charge curiale ne soit plus portée par un seul homme, mais par un conseil dans lequel le prêtre aurait sa place avec d'autres responsables, tels des coordinateurs paroissiaux et des diacres? Alors voilà un témoignage intéressant, Vincent de Cruy-Chanel, de la part de Jean-Luc. Qu'en pensez-vous de votre côté ?
Eh bien, moi, j'en pense, oui, tout à fait. La question est peut-être qu'il faut un peu approfondir les termes et la manière de vivre. Je voudrais dire à ce propos-là plusieurs choses. D'abord, par rapport aux prêtres et à la vie fraternelle, nous, l'expérience dans le cadre de la communauté du Chemin Neuf, c'est que le prêtre ou les prêtres vivent en fraternité avec des laïcs ou avec des diacres. Et c'est-à-dire que chaque semaine, nous avons un temps de, ou tous les 15 jours, un temps de vie fraternelle et dans lequel ils se retrouvent baptisé avec les autres et pauvre parmi les d'autres pauvres. Et en ce sens-là, c'est important de vivre, que le prêtre vive la vie fraternelle au même titre et au même rang que les autres. Et en général, il n'est pas le responsable de la fraternité. Ça, c'était le premier point que je voudrais dire. La deuxième chose concernant le ministère ou l'ordination de femmes, souvent on me pose la question, à moi qui suis diacre, à quand et que penses-tu de l'ordination prêtre de gens mariés comme cela se fait en Syrie, en Égypte, au Liban, etc.
Oui.
Et j'ai envie de dire oui et non. Mais avant, l'enjeu c'est plutôt que les baptiser et que nous tous qui sommes baptisés, nous prenions nos responsabilités à part entière de tout ce que notre baptême nous donne comme possibilité d'engagement, de responsabilité, de mission. Et en ce sens-là, je rejoins bien la question de Jean-Luc en disant « Mais oui, il faut qu'il y ait quelque chose de l'ordre d'une responsabilité synodale
collective,
au sein oui, mais pas uniquement collective, c'est-à-dire synodale, c'est-à-dire qu'on est tous à l'écoute de l'Esprit-Saint pour être une paroisse missionnaire, dans lequel le curé, et c'est ce que nous disions dans la première partie d'émission, devient le berger de bergers. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui fait tout, ce n'est pas lui qui décide de tout, mais celui qui veille à ce que chacun puisse exercer sa responsabilité, je dirais, de la bonne manière, en cohérence, on va dire en fraternité avec les autres, en écoute des autres. Et en ce sens-là, nous, on peut dire que, par exemple, nous, dans le cadre, quand les paroisses se sont confiées à l'animation de la communauté du Chemin Neuf, la paroisse est confiée à la communauté, oui, dans laquelle le prêtre est responsable, je dirais, et je dirais ultime, d'une manière principale. Mais il ne, entre guillemets, ne gouverne pas seul, il gouverne avec ses frères et sœurs de communauté choisis pour cela, et puis avec la place donnée à l'EAP, l'équipe d'animation paroissiale, qui n'est pas que composée de frères et sœurs de la communauté du Chemin Neuf. Donc, pour mettre davantage de communion et de synodalité au sens, je dirais, dans la manière de prendre des décisions, sans nier le statut propre de chacun, parce que chacun a son rôle, chacun a son don et charisme, mais surtout par rapport à la fraternité aussi, que le prêtre, le curé vive et qu'on lui donne la possibilité de ne pas être mis sur un piédestal, parce que souvent le cléricalisme, à la fois du côté des prêtres, mais aussi du côté des chrétiens, peut avoir conduit, je dirais, à ce que la prise de pouvoir ait conduit à une telle impunité au niveau de ce qu'on connaît sur les abus sexuels.
Jean-François Arnoux, vous voulez aussi rebondir sur ce témoignage de Jean-Luc ?
Mais tout à fait d'accord, avec lui. Je pense que il faut pouvoir mettre en place aussi d'organiser les choses pour que ça se passe comme ça. Et il faut aussi que l'évêque, lorsque ça se produit, dans certains cas, ne revienne pas sur cette décision en nommant un curé après.
Je vous lis une remarque de d'Agnès qui habite en région lyonnaise. À quand un renouvellement total global autour de l'animation liturgique et un encouragement des formes de liturgie sans orgue, par exemple? Alors ça, c'est du vécu, hein. Vincent de Cruchanel, là aussi, au sein des eucharisties, pendant les célébrations, il y a aussi peut-être des choses à revoir pour attirer plus de jeunes, plus de jeunes couples aussi qui parfois trouvent la messe vieillissante.
Alors bon, moi j'ai plusieurs témoignages à apporter. D'abord,
c'est pour ça qu'il y a des messes de jeunes, hein, de plus en
plus
d'ailleurs.
Quand nous étions à Angers, nos enfants, il y a une quinzaine d'années, nous disaient en revenant d'un camp Mège, papa, si la messe à la paroisse ne change pas, on n'y reviendra plus. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je dis, écoutez les enfants, vous retroussez les manches, vous êtes de bons chanteurs, on va organiser, le curé était d'accord, c'était pas dans une paroisse animée par la communauté, on va proposer une messe animée par les jeunes tous les mois. Et je vois à la première, donc avec un mini-orchestre, 4-5 jeunes, etc., quelqu'un de 70 ans venir me voir en pleurant, en disant « mais ça, je l'attendais depuis 20 ans ». Et donc petit à petit, effectivement, il faut des initiatives de ce type-là. Et c'est vrai qu'à Levallois, on a la chance où tous les dimanches soirs à 18h30, et pour la messe des familles, une fois tous les 15 jours à 10h, on a une messe animé d'une manière sans orgue, pour faire court. il y en a d'autres aussi qui aiment bien l'orgue, et puis on a un très bon organisme, on a un très bel orgue. Donc s'il m'écoute, il va dire d'abord merci Vincent, mais je veux dire que ça ne correspond pas forcément à tout le monde non plus.
C'est soit on aime, soit on n'aime pas l'orgue.
Oui, c'est vraiment, ça. Et donc il faut être pastoral, c'est-à-dire que quand on a la chance de pouvoir faire les deux, faisons les deux. Mais c'est évident que pour moi, une messe, dans les paroisses, il faut renouveler les trois, ce qu'on disait dans la première partie de l'émission, les trois H, des célébrations dominicales. Être attentif à l'hospitalité, c'est-à-dire l'accueil, s'accueillir au début, pendant et à la fin. Le H de l'hymne, c'est-à-dire la musique, les chants, pas prendre des chants ringards. Celui qui vient de l'extérieur et qui vient, il va dire, attends, est-ce que c'est ringard ou est-ce que j'y comprends quelque chose? Est-ce que c'est moi? Et troisièmement, l'homélie. Et là, dans l'homélie, moi, j'aurais des tas de choses à dire sur l'homélie, mais il faut toucher les cœurs, il ne faut pas vouloir faire une dissertation théologique ou philosophique, mais et là, je pense que les Américains ou les Africains ont énormément de choses à nous dire, c'est le style oral.
Les Australiens aussi.
Ouais. Mais je ne connais moins.
Bon.
Mais
on fera une émission si vous voulez. Bonjour Josette.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Chambéry, vous nous appelez au 04 72 38 20 23, on vous écoute.
Voilà. Eh bien écoutez, au moment du passage de notre quartier en zone de sécurité prioritaire,
oui,
notre curé nous avait dit, nous, ça sera zone de fraternité prioritaire. Voilà. Donc, tous les premiers dimanches du mois, on a un dimanche fraternel et on commence à 9h30 avec un partage de la parole en petits groupes dans notre église. On retourne les chaises, on a 3-4 petits groupes comme ça. Les enfants et les ados sont regroupés dans des salles. Et à 10h30, on se retrouve tous pour la messe. Et après la messe, on a un repas partagé. Et on est entre 30 et 50, et des fois plus, jusqu'à 70, quand c'est permis par le Covid. Et voilà, donc on a beaucoup de fraternité.
Oui.
Voilà, notre curé a très bien su appeler aussi depuis des années. Et on est vraiment très heureux de se retrouver tous ensemble à goûter des plats de tous les pays. Et voilà, c'est tout simple.
Merci.
C'est tout simple. Mais ça met beaucoup de fraternité.
Merci Josette d'être venue à l'antenne pour apporter cette idée. Jean-François Arnoux, il faudrait des zones de fraternité prioritaires dans toute la France.
Super. C'est super ça, c'est très bien. C'est très bien. Je voudrais rajouter quelque chose qui rejoint ce que vous disiez au début, auquel j'ai peut-être plus ou moins bien répondu, par rapport aux zones rurales.
Oui.
Parce que le problème des paroisses, c'est que quand j'étais curé de Louan, j'avais 25 paroisses, anciennes paroisses, avec 50 kilomètres entre le nord et le sud. Ce qui veut dire qu'il y a des communautés chrétiennes qui sont très loin d'un centre où souvent il se passe plus de choses. Alors, la conviction que j'ai par rapport à ça, c'est que il faudrait que dans chaque communauté humaine, dans chaque village, les chrétiens soient visibles, qu'il y ait une représentativité de l'Église dans chaque village, qu'on puisse ne pas faire 50 kilomètres pour aller demander au curé ceci ou cela, mais que sur place, on sente qu'il y a des chrétiens qui vivent. Vous êtes le sel de la terre, mettez-vous pas sous un boisseau, exprimez-vous, soyez présents. Les renseignements sur le caté, sur les obsèques, sur le mariage, tout ça, s'il faut faire tout le temps 50 km ou téléphoner pour avoir des renseignements, alors que sur place, il peut y avoir une communauté qui vit, qui célèbre, sans forcément que ce soit l'Eucharistie, mais qui se réunit pour prier, pour partager, dans la convivialité, qui prennent soin des plus petits et des plus pauvres. Je pense que ça, c'est un truc à creuser. Une paroisse, une communauté humaine où on ne reconnaît pas les chrétiens, une présence chrétienne, ça me gêne beaucoup, ça m'embête beaucoup.
Vous voyez ? Voilà des propositions aussi pour entrer dans ce temps de l'Avent. On va justement en parler de ce temps de l'Avent avec notre chroniqueuse du lundi.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Bonjour Juliette Moyer.
Bonjour Melchior.
Vous êtes journaliste pour RCF dans l'Allier. Durant toute cette période de l'Avent, vous avez choisi de parler de ces petites lumières qui, au quotidien, nous font du bien. Et pour débuter cette série, vous allez évoquer Laurent Gauthier, qui est le coprésident de l'association Canette Partage.
Et oui, Melchior, effectivement, quelle période plus propice que celle de l'Avent, et vous le voyez avec vos invités, pour évoquer ces hommes et ces femmes qui chaque jour travaillent souvent dans l'ombre pour le bien de tous. Comme Laurent Gauthier. Au téléphone, la voix de cet homme, lui-même malvoyant, se teinte d'un sourire persistant et je dirais même d'une joie communicative. Et quand on lui parle de Canette Partage, Laurent Gauthier le dit, je n'en reviens pas moi-même de tout ce qui se passe. Et c'est vrai que lorsque ce papa s'est lancé dans l'aventure Canette Partage, il ne savait pas forcément où il mettait les pieds. Si ce n'est qu'il souhaitait un projet qui allie écologie, solidarité et humilité, mais aussi bon sens, car vous ne le savez peut-être pas parce que vous êtes voyant, mais lorsqu'on se déplace avec une canne blanche dans la rue, tout obstacle devient gênant, y compris une canette, aussi petite soit-elle, en aluminium, d'une boisson à bulles que je ne citerai pas, laissée là par un propriétaire indélicat.
Et comment Laurent Gauthier s'est-il lancé dans ce projet, Juliette ?
Bien, il faut remonter pour cela en 2006. Nous sommes à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, et l'association Canette va voir le jour simplement pour 3 mois, au début, avec un but, collecter des fonds pour aider les enfants malades. Autour de la table, des personnes en situation de handicap et des amis valides qui donnent un coup de main. Et puis, de fil en aiguille, la structure va prendre de l'ampleur et séduit désormais tout le territoire national.
Et que fait-elle exactement, cette structure ?
Eh bien, Canette Partage participe à des nettoyages sur le terrain, récoltant des canettes en aluminium qui seront ensuite recyclées. Un matériau d'ailleurs qui, au passage, Melchior, est recyclable à l'infini, c'est la bonne nouvelle. Et ce geste permet eh bien de soutenir de nombreux projets, comme l'acquisition de fauteuils roulants ou de matériels adaptés pour les enfants, ou encore des projets humanitaires à l'étranger. En 2021, Canette Partage a également aidé des associations comme la célèbre association Grégoire le Marchand, le Secours Populaire ou encore l'association Arthur 03 sur le syndrome d'Angelman que nous avions évoqué à cette antenne. Et à cela, eh bien, s'ajoute Melchior de multiples actions de sensibilisation dans des classes qui sont aujourd'hui d'ailleurs partenaires du projet Sensibilisation aux enjeux écologiques et au partage de la planète. Pour accomplir tout cela, Canette Partage est entourée de partenaires comme Chaque Canette Compte, une association européenne présente dans plus d'une quinzaine de pays et qui a pour but de recycler 100% des canettes. Bref, vous l'aurez compris, Melchior, l'aventure de Laurent Gauthier et de tous ses bénévoles qui l'entourent a encore de beaux jours devant elle et autant, comme le dit ce jeune homme enthousiaste, encore beaucoup, beaucoup de magnifiques victoires à vivre.
Merci beaucoup, Juliette Moyer, d'avoir présenté cette petite lumière. lumière du quotidien. C'était l'initiative du jour qu'on pourra réentendre sur rcf.fr dans quelques minutes. Il est 10h54, on arrive à la fin de cette émission. Nous sommes toujours en compagnie de nos deux invités, Vincent de Cruchanel. Je rappelle que vous êtes diacre au service de la paroisse de Levallois. Vous êtes le co-auteur d'un livre qui s'intitule EZ37, guide pour rebooster nos paroisses, publié chez Salvator. Et puis Jean-François Arnoux, vous êtes prêtre diocésain, ancien curé de Louan et du Chalonnais. Un message de Jean-Pierre qui vient nous laisser dans le par mail d'ailleurs, à l'adresse direct@rcf.fr. J'ai entendu cette phrase, les paroisses donnent l'impression de s'essouffler. Alors je pense à un nouveau souffle, je pense à la place des enfants lors des célébrations du dimanche. Il me semble être les grands oubliés alors qu'ils en sont certainement la sève. Jean-François Arnoux, la place des jeunes dans les célébrations, on en a un petit peu parlé tout à l'heure.
Très très bonne question. Je dirais volontiers que, en partant du catéchisme, je pense qu'il faudrait davantage impliquer les parents et que c'est possible. Moi, je l'ai vécu pendant 15 ans avec des sixièmes où j'ai mis les parents dans le coup. J'ai beaucoup galéré pour ça parce que ça se passait un dimanche par mois et j'invitais les parents avec d'abord un petit groupe qui préparait et puis ensuite, le jour J, tous les parents disponibles venaient et à la fin, eh ben, ils venaient presque tous avec repas partagé et tout le fourbi. Et donc, c'était gratifiant pour les enfants de voir d'abord que les parents s'intéressaient à ce qu'ils faisaient. Je ne leur demandais pas de faire des choses impossibles. On partait des questions des parents et des questions des enfants. On faisait ce qu'on pouvait, c'était modeste. Mais il y avait une présence et il y avait une ambiance et il y avait de la joie. Je pense aussi que pendant effectivement les messes, c'est important que les enfants et les jeunes aient leur place. Il faut pour ça aussi que la communauté chrétienne soit prête à accueillir ça, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que malheureusement, on peut constater que des fois, pour un baptême, pour une confirmation de jeunes, eh ben les paroissiens s'en vont parce qu'ils pensent que ça va durer trop longtemps, que ça ne les concerne pas. Et donc ça, c'est très dommage. Mais effectivement, il y a quelque chose à trouver dans ce domaine-là, je suis tout à fait d'accord.
Vincent de Cruchanel, on arrive à la fin de cette émission. J'aimerais qu'on parle un peu de votre livre. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, parce qu'il est très complet ce livre. Il fait un peu plus de 300 pages, notamment avec cette préface qui est très impactante, percutante, je trouve, de l'évêque de Créteil, Monseigneur Dominique Blanchet. Pourquoi il a accepté d'ailleurs de signer cette préface?
Pour deux raisons. Oui. Deux raisons. C'est l'ancien vicaire général du diocèse d'Angers. Oui. Et qui nous a invités avec le père Jean-Hubert Thieffry, quand il était nommé évêque à Belfort-Montbéliard, à intervenir à la conférence des évêques de France, à la CEF, pour parler des cinq essentiels, pour parler donc de cette communauté chrétienne, première communauté chrétienne avec les cinq essentiels, prière, fraternité, formation, service et évangélisation, et qui s'est tout à fait retrouvé dans ce livre parce que le but n'est pas tant de tirer une croix sur les paroisses, mais d'essayer soit de les rebooster, soit vivre la transformation pastorale demandée par le pape.
Alors c'est un livre qui s'adresse à qui? Aux prêtres, mais pas que, à tout le monde?
Mais pas que, oui, à tout le monde, c'est-à-dire à la fois aux prêtres, à tous ceux qui sont en charge de responsabilité dans une paroisse, mais aussi à tout chrétien qui a envie de, eh bien, que des choses changent, parce que chacun à notre niveau, eh bien, nous pouvons changer. Et j'aimerais juste terminer par cette phrase que j'aime bien dire chaque matin. Esprit Saint, bonjour. Qu'allons-nous faire de beau aujourd'hui ensemble?
Eh bien, Vincent de Cruchanel, je vous dis au revoir puisque c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup
Merci.
De nous avoir accompagnés pendant 2 heures ce matin. Diacre au service de la paroisse de Levallois et puis co-auteur de ce livre, je recite, EZ37, guide pour rebooster nos paroisses, publié chez Salvator. Merci beaucoup à Pierre-Henri qui était à la réalisation de votre côté. Jean-François Arnoux, merci à vous également.
Oui.
Merci à l'équipe qui vous accueillait du côté de Dijon. Vous êtes prêtre diocésain et ancien curé de Louan et du Chalonnais. Merci à Hugo, à Mélissa qui ont permis la réalisation de cette émission. On va se retrouver demain pour parler de Joséphine Baker qui entre au Panthéon demain, mardi 30 novembre. Ce sera entre 9h et 11h dans Je pense donc j'agis. Ce sera l'occasion également de parler de la danse. Comment démocratiser la danse ou la rendre un peu plus accessible? Voilà cette double mission pour demain si vous l'acceptez. À demain!